VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mercredi 18 novembre 2015. Au sommaire ce soir.
Raid de la police française à Saint-Denis, bilan, deux morts et quelques arrestations.
Le cauchemar qui est en train de continuer, on ouvre la télé à tôt le matin pour voir que juste à côté, chez nous, il y a un acte violent dans notre ville.
Un nouvel attentat attribué à Boko Haram au Nigeria fait plusieurs dizaines de morts.
L'ONU met fin à sa mission d'observation électorale au Burundi.
Les Nations Unies, par la voix du coordonnateur résident, ont encore une fois réaffirmé l'engagement du système des Nations Unies en tant que partenaire impartial et de confiance à continuer à œuvrer pour le bien-être du peuple burundais.
Crise migratoire en Europe, la Grèce et la Turquie veulent faire front commun pour juguler le front de migrants.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
On ouvre sur les attentats de Paris. L'enquête vient de prendre un tournant très important. Alors que toutes les pistes menaient vers la Belgique, les forces spéciales ont mené un assaut spectaculaire mercredi matin en banlieue parisienne à Saint-Denis pour neutraliser plusieurs complices des djihadistes. Mais aussi un des personnages clés de l'organisation de ces attentats était poursuivi à Paris. Le récit de notre correspondant Christian Panzou.
C'est aux environs de 4h30 du matin, heure française, que les habitants de la commune de Saint-Denis se réveillent au son des tirs nourris échangés entre les forces spéciales et un groupe de personnes. Ces individus sont retranchés dans un appartement du centre-ville et très vite, une première forte détonation est entendue. Une femme kamikaze vient d'actionner sa ceinture d'explosifs. Une autre personne présente dans l'appartement est décédée, tuée par un sniper. L'assaut, extrêmement violent, a duré en tout près de 7 longues heures. Les hommes du raid ont alors procédé à plusieurs arrestations, 7 au total, et parmi les personnes interpellées, les policiers auraient arrêté le commanditaire présumé des attentats, Abdelhamid Abaoud. Ce djihadiste belge, sous le coup d'un mandat d'arrêt international et compensé en Syrie, était la cible de l'assaut des forces antiterroristes à Saint-Denis, au nord de Paris. Pour le moment, les autorités n'ont pas formellement identifié Abdelhamid Abaoud, mais si tel était le cas, cette capture serait une évolution considérable dans l'enquête, alors que l'ennemi public numéro 1, Salah Abdeslam, est toujours en fuite. À Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Le groupe État islamique a annoncé l'exécution de 2 otages chinois et norvégiens 2 mois après avoir réclamé une rançon pour leur libération. Les djihadistes ont publié sur Internet les photos des corps des 2 otages présumés au visage ensanglanté, frappés d'un grand bandeau en jaune sur lequel il est écrit « Exécutés après avoir été abandonnés par les nations et les organisations infidèles ». L'otage norvégien était un universitaire de 48 ans, tandis que le chinois était un consultant âgé de 50 ans.
En Turquie, les forces de sécurité ont tué un présumé militant du groupe État islamique et appréhendé 21 autres alors qu'ils tentaient d'entrer illégalement au pays par la frontière syrienne. L'incident s'est produit dans la province de Kilis, dans le sud de la Turquie. 9 des détenus sont des enfants, selon un communiqué de l'armée. Ankara a déployé des renforts pour sécuriser une frontière de 900 km avec la Syrie et bloquer le passage des extrémistes.
Le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Dahiri, avertit que son pays risque de devenir le nouveau sanctuaire du groupe État islamique. La lutte contre les djihadistes de Daesh doit tenir en compte la Libye, dit-il. Éric Manirakiza.
Selon le patron de la diplomatie libyenne cité par l'AFP, le groupe État islamique est en train de renforcer sa présence dans son pays. Le commandement de ce groupe djihadiste envoie les nouvelles recrues vers la Libye et non plus la Syrie, a déclaré Mohamed Dahiri de passage à Paris ce mardi. Il ajoute que les combattants se comptent entre 4000 et 5000, formés essentiellement de Tunisiens, de Soudanais et de Yéménites. Il implore la communauté internationale à agir vite pour épargner de la Libye qu'elle ne devienne pas le prochain sanctuaire de Daesh. Selon lui, une action contre l'État islamique s'impose en Syrie, en Irak, mais aussi en Libye. Le groupe extrémiste contrôle déjà la ville de Sirte et est implanté dans plusieurs régions comme Derna et Benghazi dans l'est du pays, a-t-il précisé.
Crise migratoire en Europe, la Turquie et la Grèce ont décidé de créer un groupe de travail pour coordonner leurs efforts afin de juguler le flux des migrants qui partent des côtes turques vers les îles grecques. Selon les Nations Unies, plus de 650 000 migrants, pour l'essentiel des Syriens, ont laissé les côtes turques depuis janvier pour allier les îles grecques.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Double attentat à la bombe sur un marché de canaux dans le nord du Nigeria. 15 personnes ont été tuées par deux jeunes filles kamikazes, selon la police. C'est dans ce contexte qu'une commission spéciale dénonce dans un rapport la corruption au sein même de l'armée nigériane. Une pratique qui minerait la lutte contre les islamistes de Boko Haram, regrette le président nigérian Muhammadu Buhari, qui a reçu le rapport. Jacques Aristide.
Oui, au moins 32 personnes ont été tuées dans un attentat à la bombe sur un parking pour poids lourds à Yola, dans le nord-est du Nigeria. Une région qui est le théâtre depuis 2009 de l'insurrection du groupe islamiste qui a fait quelque 17 000 morts depuis 6 ans. D'où la colère du président Buhari hier soir en prenant connaissance du rapport sur la corruption. Un document qui révèle plusieurs transactions financières illicites et frauduleuses, mettant notamment en cause le bureau du conseiller à la sécurité nationale. L'ancien titulaire Sambo Dasuki, homme clé du régime de l'ex-président Goodluck Jonathan et qui a été limogé en juillet dernier, est déjà inculpé de blanchiment d'argent tel que le rapporte l'AFP. Le président Buhari veut que tous ceux impliqués dans des contrats frauduleux d'achat d'armes et d'équipements qui représentent plusieurs milliards de dollars rendent des comptes. De son côté, le réseau social Facebook a pour la première fois activé son safety check au Nigeria, après avoir été critiqué pour un usage sélectif de cet outil permettant aux utilisateurs de signaler qu'ils sont en sécurité.
Mali, dans la localité de Minaka, vers la frontière avec le Niger, des éléments de la communauté d'Aoussaïk ont perpétré des attaques contre les peuls de la communauté Tolobé. Le bilan serait de 7 peuls tués et 4 autres enlevés. L'incident qui s'est produit dimanche n'a été connu que ce matin. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Le dimanche 15 novembre dernier, dans la matinée à Unfukaretana, localité située au sud de Menaka, vers Andramboukan, près de la frontière avec le Niger, des éléments armés de la communauté d'Obsahak ont perpétré des attaques contre les peuls de la tribu des Tolobé. Selon nos sources, les Dawsak seraient entrés dans la foire de Unfukaretana avec des armes et commençaient à repérer les peuls. Selon toujours les mêmes sources, 7 peuls auraient été exécutés et 4 autres enlevés par les Dawsahaka. Plusieurs animaux auraient été emportés par les assaillants. Des informations à prendre avec des pincettes puisque difficile à vérifier sur le terrain. Cependant, il faut rappeler que très souvent, dans ces zones où il n'y a aucune présence des forces de défense et de sécurité, les attaques entre les deux communautés, Peul et Dawsahak, sont très fréquentes et c'est toujours avec des pertes en vie humaine. Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
Burkina Faso, l'ex-ministre des Sports du président burkinabé déchu Blaise Compaoré, Yacouba Doué-Draogo, a été arrêté et inculpé aujourd'hui pour son implication présumée dans le putsch manqué du 17 septembre. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source judiciaire. Par ailleurs, l'ex-ministre des Affaires étrangères burkinabé Djibril Bassolé et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro ont assuré à l'AFP, via leur porte-parole, qu'ils n'étaient pas impliqués dans l'enregistrement téléphonique concernant le putsch manqué de septembre au Burkina Faso.
Au Niger, la requête déposée par l'opposition et demandant la mise en accusation du président Mahamadou Issoufou pour haute trahison a été rejetée par une commission et ne sera pas examinée par le Parlement, a indiqué le vice-président de cette institution à l'AFP.
Au Burundi, la mission d'observation électorale des Nations Unies, la MENUB, a mis fin à ses activités. Le chargé de mission, Isaka Suna, indique que son mandat a été mené de manière professionnelle et impartiale. Un rapport final sera publié très prochainement. L'ONU reste toutefois au Burundi par le biais de ses agences et fonds et programmes. Une correspondance de Christophe Kourounziza.
Les Nations Unies, par la voix du coordonnateur résident, ont encore une fois réaffirmé l'engagement du système des Nations Unies en tant que partenaire impartial et de confiance à continuer à œuvrer pour le bien-être du peuple burundais. Cette œuvre passera par le développement et la mise en œuvre des politiques nationales afin de répondre plus efficacement aux défis humanitaires de consolidation de la paix et de développement auxquels le pays est confronté. L'adoption à l'unanimité de la résolution 2248 par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 12 novembre dernier dernier confirme cette mission. Le chef de mission, Haï de la MENIB, estime quant à lui que le travers de cette mission d'observation pourra éclairer à l'avenir la suite du dialogue sous les auspices de la communauté est-africaine et de la Commission nationale du dialogue inter-burundais avec l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Burundi. Le secrétaire général des Nations Unies a réaffirmé que les Nations Unies resteront inébranlables dans leur soutien au peuple et au gouvernement burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, un étudiant a été blessé par balle ce mercredi à Kinshasa lors de heurts entre la police et les étudiants manifestant contre l'augmentation des frais universitaires, rapportent les sources médicales. Une journaliste de l'AFP a vu deux autres étudiants blessés, l'un à la tête, l'autre à la jambe. Selon le corps médical, ces blessures ont été causées respectivement par un jet de pierre et une chute.
Après le vote du Sénat rwandais pour une réforme de la Constitution, Washington espère que le président Kagame respectera ses engagements précédents et quittera ses fonctions en 2017.
L'Iran a commencé à démanteler certaines de ses installations nucléaires, conformément à l'accord de Vienne, conclu avec les grandes puissances en juillet, a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
En Éthiopie, Bel, le producteur du fromage La Vache qui rit et le brasseur Castel ne collaboreront pas. Le groupe Bel, qui s'était appuyé sur le spécialiste de la bière pour se développer en Éthiopie, a fini par lasser son partenaire à cause de ses hésitations. Un abandon étonnant, la consommation de produits laitiers et de fromage dans la région progressant de 4% chaque année. En Afrique du Sud, 6 milliards de rentes, environ 389 millions d'euros, c'est ce que souhaite investir BMW pour transformer son usine de Rosslyn près de Pretoria afin de fabriquer le nouveau modèle de berline BMW série 3, des modèles très prisés par les marchés nigérians, kényans et tanzaniens. Lancée en 1973, l'usine de Rosslyn est la seule usine de production de BMW en Afrique. Et en 2014, le groupe a écoulé environ 2 118 000 voitures dans le monde pour un chiffre d'affaires de 80,4 milliards. Afrique du Sud toujours, avec la compagnie aérienne South Africa Airways, SAA, qui a un nouveau directeur général, le 7e en 4 ans. Première mission de Moussa Zouane, finaliser la renégociation d'une commande de 10 Airbus A320 pour la transformer en leasing de 5 appareils A330, un projet qui permettrait à SAA d'épargner 1,4 milliard de rentes, soit 92 millions d'euros.
Et la Minute Éco, merci Anastasie.
La page sport ce soir, c'est avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Gabi.
On va parler de corruption à la FIFA, mais surtout des conséquences de cette affaire. Problème pour Blatter et Platini.
Oui, l'ancien triple ballon d'or et capitaine des Bleus, c'est l'équipe de France, Michel Platini, risque de perdre la présidence de la FIFA dont il était le grand favori. Sa candidature fragilisée par l'affaire Blatter, on venait de le dire, est déjà gelée. Suspendu provisoirement jusqu'au 5 janvier, son appel a été rejeté aujourd'hui, de même que celui de Joseph Blatter. Évidemment, le temps change et se fait plus offensif dans le camp Platini. On va arrêter l'angélisme. Gabi a lâché son avocat maître Thibaut Dallès et Platoche, c'est le surnom de Platini. Est-ce que tu le savais ?
Non.
Ah oh, et Platini se tourne désormais vers le tribunal arbitral du sport TAS, basé à Lausanne, pour interjeter un nouvel appel.
Aura-t-il le temps vraiment d'être candidat on ne sait pas. L'élection, c'est pour début 2016.
Ah oui, à des manœuvres, peut-être pour éviter sa candidature. On ne sait pas.
Mario Balotelli, absent sur le terrain pour 4 semaines.
Oui, l'attaquant de l'AS Milan a été opéré à Munich aujourd'hui pour une pulbalgie et devrait être absent environ 4 semaines, le temps de la convalescence, a annoncé son club dans un communiqué.
J'aime le Real et le Real s'apprête à affronter le Barça, samedi.
Oui, le joyau de la Liga, c'est le Classico, comme cela on l'appelle, Real Madrid, FC Barcelone, qui se joue bien samedi dans la capitale espagnole, mais avec un dispositif de sécurité draconien, plus de 1 500 policiers tu peux deviner de quoi il s'agit, Gabi.
Non, une note sur le basket, Eric, la NBA.
Ah oui, les Houston Rockets ont limogé ce mercredi leur entraîneur Kevin McHale après un début de saison 2015-16, très décevant, de 4 victoires pour 7 défaites. Et il faut souligner ce joueur talentueux qui est décédé d'une crise cardiaque, c'est Jonah Lumu, l'ailier néo-zélandais, joueur de rugby.
Merci Eric Manirakiza.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil, en votre compagnie, place au dossier du jour, première escale, Paris.
Raid de la police française à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, ce mercredi. Les résidents sont restés terrés chez eux, y compris les voisins qui ont dû suivre les événements à la télé. Pour un témoignage, Idriss Fall a joint Mohamed Enish, un musulman français habitant à Saint-Denis.
Le cauchemar qui est en train de continuer, on ne croyait pas l'information puisque les gens nous ont appelés pour dire qu'il y a un raid violent à Saint-Denis où nous sommes. Ben, il a fallu qu'on ouvre la télé tôt le matin, à 7h du matin, pour voir que juste à côté, chez nous, il y a un acte violent dans notre ville. Vraiment, c'est tout simplement, c'est un film de hollywoodien qui continue à tourner. Les gens actuellement ne réalisent pas que c'est du vrai.
Maintenant, est-ce que les gens ont peur? Est-ce que vous êtes resté enfermé chez vous ou bien?
Tout à fait, personne ne sortait. Toute la matinée, les enfants n'allaient pas à l'école. Les enfants, donc, il n'y avait pas d'école. Les métros, les bus, on était barricadés chez nous à la maison. Personne ne bougeait, personne ne sortait. On regardait la télé. C'est à peu près vers 11h midi qu'on a pu sortir de la maison. C'est vraiment, pour les enfants, pour les gens, c'est vraiment traumatisant. C'est un grand traumatisme.
L'assaut a eu lieu sur la rue piétonne de Saint-Denis, près de la
Tout
place du marché.
Ouais, il y a piétonne, commerçante, mais il y a beaucoup d'habitations à côté. Beaucoup d'habitations. Et c'est le centre-ville de Saint-Denis. C'est au centre-ville, juste à côté, entre la mairie et l'église. C'est entre les deux.
Maintenant, les musulmans de Saint-Denis, est-ce que vous craignez d'être stigmatisés?
Ben, tout à fait. Même suite à ces attentats et ce qui s'est passé aujourd'hui, ben, il y a une réelle inquiétude par rapport à des représailles et une stigmatisation plus accrue contre les musulmans et des lois où on nous parle de mosquées qui vont être fermées, d'imams qui vont être expulsés. Donc il y a beaucoup de panique dans ce sens-là. Donc vraiment, c'est un peu tendu.
Témoignage de Mohamed Enish, un musulman français habitant à Saint-Denis.
Suite aux attaques de Paris, la France a lancé une série de bombardements en Syrie sur des cibles supposées appartenir à Daesh. Depuis environ un an, une coalition fait également le même travail. Du coup, la question que beaucoup se posent est de savoir que bombarde-t-on concrètement et quels en sont les résultats. Laurent Bonnefoy, politologue de l'Institut d'études politiques de Paris, au micro de John Lyndon.
On prétend bombarder des positions stratégiques, notamment des camps militaires. Les résultats ont sans doute tardé à se manifester pour la bonne et simple raison qu'on a effectivement assez peu de leviers sur place. C'est pas à long terme ce que cela va produire. Si depuis bien plus d'un an qu'une coalition a été lancée contre l'État islamique, on a obtenu peu de résultats, il est très probable qu'on continue à en obtenir quasiment aucun, si ce n'est des résultats contre-productifs, à savoir toujours davantage de radicalisation et de rancœur à l'égard de l'Occident. Ça me semble hautement contre-productif. Il se trouve que la décision de bombarder a sans doute pour l'essentiel une fonction interne, voire électoraliste, pour le gouvernement à l'approche des élections qui veut montrer ses muscles d'une certaine manière.
Est-ce que ces bombardements ne vont pas attiser plus de violence et pousser les fidèles de ISIS à commettre plus d'attaques dans les grandes capitales. Washington, par exemple, a été menacé et il y a bien d'autres capitales également.
Oui, c'est vraiment un des risques aujourd'hui. Il est assez triste, je dirais, de constater que les limites de la guerre contre le terrorisme, qui a manifestement été un échec, les limites de l'expérience en Irak des États-Unis et de l'expérience internationale en Afghanistan n'ont pas été intégrées. Personne, d'une certaine manière, n'a voulu retenir la leçon. Il est faux aujourd'hui de penser que plus on bombarde au Moyen-Orient ou en Afghanistan, plus notre sécurité en Europe ou aux États-Unis est assurée. Et c'est même en général le contraire qui se passe. La pire chose à faire que de penser qu'on a en Syrie que le choix entre l'État islamique et Bachar al-Assad.
Alors qu'est-ce que la France, les États-Unis ou d'autres pays doivent faire pour éviter des actes comme ce qu'on a connu en France récemment?
Il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est de court terme, un niveau sécuritaire qui est un contrôle plus précis d'un certain nombre de militants, une surveillance d'un certain nombre de sites internet. Mais ça, c'est, je dirais, des solutions qui sont de court terme pour empêcher aujourd'hui des gens qui souhaitent commettre des actes de violence. Et puis après, il faut aussi réfléchir au long terme.
Laurent Bonnefoy, politologue de l'Institut d'études politiques de Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le budget du groupe terroriste Daesh, le groupe qui se fait appeler État islamique, est estimé à plus de 2 milliards de dollars pour 2015. Autrement dit, le groupe terroriste le plus riche de la planète. Au début financé par de riches partisans des monarchies du Golfe, ses profits tirés de la contrebande du pétrole s'établissent à quelque 600 millions de dollars par an. Les djihadistes financent le terrorisme grâce notamment au trafic d'œuvres d'art et aux taxes prélevées dans les villes syriennes et irakiennes qu'ils occupent. Pour plus de précision, Nathalie Barge a joint à Paris Georges Malbruno, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient au Figaro.
Daesh n'est pas financé par des pays du Golfe en tant que tel, mais Daesh a reçu des financements privés qui venaient de pays du Golfe. Ça s'est fait effectivement, je pense, sans l'assentiment des autorités, mais est-ce que les autorités saoudiennes, koweïtiennes, qui sont, d'après les Américains, l'épicentre du financement du djihad, est-ce que ces autorités, même qatariennes aussi, ont fait tous les efforts nécessaires pour éviter ces financements? La question peut rester posée, à mon avis. Daesh a été financé au début par des donations privées, ensuite par des ventes de pétrole, par du trafic d'objets d'art, d'antiquités, et puis maintenant par les impôts, taxes, extorsions de fonds auxquels Daesh s'adonne en Irak et en Syrie. Donc Daesh prélève un certain nombre de taxes sur les camions qui transitent entre la Syrie et l'Irak, qui transitent en Irak, prélève des taxes sur les marchandises qui rentrent, et donc ces taxes, ces extorsions de fonds constituent une des principales sources de revenus aujourd'hui pour Daesh, qui a réussi justement à autonomiser ses sources de financement et à remplacer justement les donations privées qui venaient des pays du Golfe dans les années 2012-2013 et qui aujourd'hui se sont taries en raison de la pression qui a été exercée sur ces pays du Golfe, en particulier par les États-Unis.
Et quant à la contrebande du pétrole?
Les Américains, semble-t-il, ont changé un petit peu leur stratégie. Ils ont frappé les installations pétrolières Daesh, mais en Syrie, par exemple, ils hésitaient à les détruire dans la mesure où ces installations font partie de l'État syrien. Or, vous savez que dans le plan de transition qui est envisagé, les institutions de cet État syrien doivent être préservé intact. Mais aujourd'hui, les Américains ont intensifié ces dernières semaines leur bombardement contre ces installations pétrolières.
Tout cet argent transite forcément par des banques. À un moment donné, comment se fait-il que l'on ne parvienne pas à les localiser, à localiser ces trafics, hein ?
Essentiellement parce que l'essentiel de ce trafic se fait en cash. Hein. L'économie de Daesh est une économie qui vit sur le cash, sur de l'argent liquide. Donc il est plus difficile, évidemment, d'empêcher des transferts de fonds liquides que lorsque ces transferts se font via des réseaux bancaires. C'est une des grandes raisons pour lesquelles la traque financière contre Daesh est difficile.
Georges Malbruno, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient au Figaro, joint à Paris.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur les attentats du 13 novembre à Paris. La nouvelle stratégie d'attaque à l'extérieur du groupe État islamique marque-t-elle un tournant dans la guerre contre le terrorisme? L'OTAN va-t-elle être mobilisée? Des troupes au sol seront-elles cette fois-ci déployées? Quelles en sont les conséquences pour les réfugiés? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Créé à l'origine pour rassurer parents et amis en cas de catastrophe naturelle, l'application Safety Check de Facebook a été utilisée pour la première fois à la suite d'une attaque terroriste. Pour Nicolas Arpajan, directeur scientifique du cycle Sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de justice, établissement public placé auprès du Premier ministre et rédacteur en chef de la revue prospective stratégique. La décision de Facebook qu'a pris Facebook d'activer l'application à la suite des attaques terroristes du 13 novembre dernier montre aussi que les services d'alerte publique ne sont plus uniquement une affaire de gouvernement mais intéressent aussi le secteur privé. Arzuma Compaoré.
L'application fonctionne sur le principe de la géolocalisation, c'est-à-dire que par le système des téléphones et des antennes relais, on est capable de vous situer, puisqu'on peut situer n'importe quel utilisateur de téléphone par le système de triangulation, c'est-à-dire qu'il y a des bornes auxquelles se connecte votre téléphone pour se connecter pour les communications, également pour l'Internet. Et donc, dès lors qu'une zone a été désignée par ceux qui ont programmé l'application, en fait, on vous signale comme étant dans cette zone et étant potentiellement dans une région ou dans une zone de turbulence. Et donc effectivement, la question était, est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il semble que vous soyez dans une zone touchée par des attaques terroristes à Paris? Et donc on vous propose d'informer vos amis que vous êtes bien en sécurité.
Alors si je ne suis pas en sécurité, qu'est-ce que je fais?
Pour l'instant, c'est à Facebook qu'il faut poser cette question. C'est d'appuyer sur ce bouton vert qui dit effectivement de manière à signaler, on est dans la logique de rassurer des gens qui pourraient penser que vous êtes en danger. Manifestement, les concepteurs de la n'ont pas voulu choisir l'option d'assistance et de dire de manière à envoyer au contraire le message selon lequel vous êtes dans une situation périlleuse.
Quelles peuvent être les répercussions de cette application selon vous?
À titre indicatif, on a parlé presque 5,5 millions de clics, c'est-à-dire de personnes ont cliqué sur cette application. Donc au regard du nombre d'utilisateurs, on est sur plusieurs centaines de millions, presque 400 millions de personnes qui au final ont reçu un message dans le cadre de cette application.
Il n'y a pas de possibilité, par exemple, de dire « I am not safe », donc je ne suis pas en sécurité. C'est vraiment quelque chose qui sera après coup.
Facebook veut justement être également porteur de bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on est là pour rassurer la logique de caring, de faire en sorte de prendre soin de ses utilisateurs, mais qu'il ne va pas jusqu'à devenir un système d'alerte, un système justement qui diffuse l'inquiétude. C'est manifestement un positionnement stratégique de la part de Facebook, puisque c'est exactement la même technologie qui pourrait être utilisée pour donner un signal d'alerte, pour dire « je suis en danger, je demande de l'aide, de l'assistance ». C'est un vrai choix stratégique de l'entreprise de Mark Zuckerberg.
Nicolas Arpajan, directeur scientifique du cycle Sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.
Cette édition touche à sa fin. On remercie Georges Léonard Sagno et notre ami Lopez dans la partie technique, ici chez Romain Dorsil et Morgane Guériac.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.